tu il pugliaccio? Vuoi tu il pugliaccio? Ah, il cuido. Boh, allora mi dicono sì. Allora mi dicono sì. Non puoi
andare.
Deve andare. Ma lì so?
Non
è una cosa. No, non è un dialogo, ma ti faccio. E mi dicono in motion. Mi dicono in cancello il suo. In motion, no.
Ma
che cosa
la
fa tutta la gente? Te
ci
puoi
dire? Non ci puoi dire.
One, two, three, four, five, six. Ladies and gentlemen, we'll start in a minute or two. Just FYI, there will be French presenters and English presenters, so if you will need translation, please get your headphones now. Thank you. One, two, three, four, five, six. Four, five, six, seven, eight, nine, ten.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Now you got it right. You know? You got it right. One, two, three. English feed. English stream. Okay.
Okay, then. Good morning, ladies and gentlemen, and let me welcome you all to...
Bonjour, messieurs, dames. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance pour discuter de l'IPv6.
Efforts that Appianik, the and the...
Je m'excuse qu'il n'y a pas encore de traduction, mais le, on vient de notre salon. Les interprètes d'anglais vont arriver tout de suite.
I'm honored to have a panel of experts, very diverse experts from all over the region and from different backgrounds that will walk us through their experiences within their respective fields and countries. But before that, let me take a couple of minutes to give an overview view of the regional perspective of what's happening in Africa and the efforts Africanet as the regional internet registry for the region is doing. So I forgot to introduce myself. Excuse me for that. I am Hisham Ibrahim, the IPv6 program manager of Africanet, and this is my presentation. So the NRO, which is the Number Resource Organization, collectively, and each of the five regional internet registries in their respective service regions serve their communities by providing...
you want the floor?
Here. I want her.
Okay, if you want Spanish from them, Spanish. You speak French.
Yes, but I hear English. Pour pouvoir former, augmenter les connaissances et la prise de conscience à la société civile, à la société technique sur l'IPv6. Pour vous donner un peu de perspective à ce dont nous parlons en Afrique, à ce que nous voyons en Afrique, Voici un transfert que je veux regarder parce que cela nous montre la carte de l'Afrique, n'est-ce pas? Ce que nous pouvons voir ici, c'est que il faut une sorte de coordination entre les deux pays pour montrer la diversité de la situation africaine. Nous pouvons voir qu'au moins il y a 18 des principaux pays comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Europe de l'Est, la France. Tout ceci est combiné pour montrer c'est-à-dire la diversité du pays. Non seulement on peut parler de diversité, mais dans ce continent, nous avons au moins 1 milliard d'habitants qui représentent environ le 15% de toute la population mondiale. Voici notre région pour Afrinik. Tel que je l'ai signalé auparavant, on est le centre d'information d'Internet pour l'Afrique. Nous gérons le pool IPv4 et IPv6. Nous avons une base de données WHOIS pour les adresses IP. On mène 2 réunions par an et c'est des réunions gratuites ouvertes au public où l'on mène une procédure de développement des politiques. Toute partie prenante peut venir, peut participer, peut parler et peut discuter de sujets importants, des sujets liés à la gestion des ressources Internet dans la région. Nous avons également une infrastructure de KPS, des serveurs. Et je dis tout ça très, très rapidement parce que on travaille beaucoup à Afrinik. Je veux me concentrer ici spécialement à l'IPv6. Et la dernière partie de notre diapo mentionne qu'on a fait plus de 100 sessions de formation dans plus de 45 pays depuis 2005. On a formé les ingénieurs africains sur la manière de mettre en place l'IPv6 dans le réseau particulièrement. Il s'agit de sessions de formation pour des techniciens, pour des non-techniciens, et c'est l'un de nos principaux objectifs parce que l'IPv6 exige une amélioration du matériel, du logiciel, mais aussi il faut améliorer le middleware, c'est-à-dire les ressources humaines, la capacité humaine. Il faut former les gens pour qu'ils sachent à quoi ils doivent faire face et comment trouver les solutions requises. Voici donc une énorme portion, une énorme partie du travail que nous avons réalisé lors des dernières années, tel que je l'ai signalé. Depuis 2004, nous avons mené beaucoup de cours de formation, de prise de conscience. On a investi pendant les 5 dernières années plus de 2 millions de dollars pour ces formations. Et pour mettre cela en perspective, je dois dire qu'en 2005, il n'y avait que 4 réseaux en Afrique avec IPv6 et qui n'est pas visible. À ce jour, on a 240 réseaux qui ont l'IPv6 et qui sont visibles sur l'Internet. Le 10,5% du public des réseaux est visible en Afrique comparé avec une moyenne de 8,7%. On est visible au niveau d'IPv6. On est conscient de cela. Et on fait des progrès dans ce sens. Ici, nous avons quelques faits. Le pôle central de l'IANA a fini en février 2011. Il y a eu une conférence de presse. Voilà, tout le monde était content. Il y a eu le gâteau. Tout le monde était heureux. Voilà, c'est fini. Mais si nous voulons avoir ce milliard de personnes dont on a parlé, que ces personnes soient connectées à l'Internet, on a besoin de l'IPv6 parce que c'est le seul pouvant être durable et c'est la seule solution existante à long terme. Deuxièmement, l'Afrique a l'une des croissances vis-à-vis des utilisateurs Internet les plus importantes au niveau mondial. C'est parce que nous avons été les derniers à participer de ce jeu. Nous essayons de nous mettre en parallèle avec le reste du monde. Les préfixes IPv6 augmentent rapidement. Et on ne peut pas dépendre constamment pour ce qui est des technologies qui ne vont plus exister. Il faut bien migrer de technologie. Pour ceux qui disent qu'il y a beaucoup d'espace sur l'IPv4, je peux vous dire que l'année dernière, le chiffre que nous avons alloué en Afrique a été doublé. On aurait pu le tripler si ce n'était pas par l'audit et parce que nous avons essayé de gérer ce pool, ce groupe de manière appropriée, notamment ce qui avait trait à l'IPv4. Et peut-être, bien que nous disons aux gens, eh bien, vous devez penser à l'IPv6. Dans ce graphique, on voit les données IPv6 pour la région. Vous pouvez apprécier qu'il y a eu une énorme croissance. À gauche, vous pouvez le voir, vous avez la ligne à gauche en bas, une énorme croissance de l'allocation d'IPv6 dans la région. Cette toile d'araignée représente le réseau et là, on voit où il y a eu les assignations Afrique du Sud, le Kenya, l'île Maurice, le Nigeria, Égypte, etc. À l'heure actuelle, on est 54 pays qui ont un préfixe IPv6. Cela veut dire que au moins chacun des pays connaît ce sujet et essaie de le mettre en place. En ce qui concerne d'autres initiatives de l'AFRINIC, nous allons lancer également dans la réunion de Cameroun de novembre l'IPv6, un portail IPv6 pour l'Afrique, où nous aurons tous les groupes de travail des différents pays, des chapitres SOC aussi. Et nous allons essayer de créer une plateforme commune. On a lancé un portail IPv6 pour que ce soit la seule fenêtre où l'on puisse voir l'information IPv6 en Afrique. Nous avons également des listes de courriers électroniques, des documentations, etc. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à l'adresse que vous voyez sur l'écran et bien que l'on ne soit pas mis à jour sur l'IPv6, eh bien, nous voulons entendre ce que vous avez à dire et ceux qui sont intéressés à l'IPv6, je vous demande de participer de cette réunion. Je veux inviter le deuxième orateur qui vient du Sénégal. Je te demande donc de te présenter. Merci.
Bonjour. Je m'appelle, je me présente, je suis Doudou Gaye. Je représente le ministère de la communication, et des technologies de l'information et de la communication. Je suis là pour vous présenter la situation de l'IPv6 au Sénégal. Comme M. Ibrahim l'a présenté tout à l'heure, IPv6 constitue un protocole qui est le protocole du futur et qui va bien être utilisé dans le futur. Donc, pour la situation de l'IPv6 au Sénégal, ma présentation va se... Voilà. Donc, mon plan s'articule comme suit. D'abord, nous parlerons du Comité national de transition vers IPv6. Ensuite, nous parlons aussi des résultats de l'enquête que nous avons effectuée sur les différentes structures publiques et privées du Sénégal. Avant de parler du Comité national de transition vers IPv6, nous pouvons dire que le processus de transition vers IPv6 au Sénégal a commencé depuis 2008. Il y avait un forum qui a été mis en place Et aussi, un slash 32 a été attribué pour l'utilisation pour le gouvernement, les universités et certaines entreprises. Mais le processus a été arrêté depuis il y a 2 ans. Et aussi, il y a des sessions de formation qui ont été organisées à l'ICAT dans cette année-ci, pour parler du présent. Aussi, comme Hicham l'a dit tout à l'heure, le dernier bloc d'adresse IPv6 a été alloué depuis février 2011, ce qui a décidé la direction des TIC à mettre en place le comité national de transition vers IPv6. La première réunion a eu lieu le 29 avril 2011. Elle a été établie par la directrice nationale des TIC sous la tutelle du ministre de l'Information, c'est-à-dire Moustapha Guérassi. Le comité est composé d'opérateurs, de ministères, des entreprises publiques et privées, et des universités. Le planning que le comité s'est donné, l'objectif du comité, c'est de réaliser un état des lieux sur l'ensemble des structures privées et publiques du Sénégal, c'est-à-dire pour voir les infrastructures, est-ce qu'ils sont compatibles avec IPv6, et aussi d'établir un draft de transition avant octobre 2011. Mais aussi, l'un des objectifs du comité, c'est-à-dire dans le plan d'action, c'est d'évaluer l'état de la progression du déploiement d'IPv6 jusqu'en décembre 2012. C'est le plan d'action que le comité s'est donné pour l'utilisation et le déploiement d'IPv6, pour la vérification, pour l'utilisation et le déploiement d'IPv6 au Sénégal. Donc, aussi dans les objectifs du comité sur le plan d'action, on avait dit que.
Le comité del plan d'action avait
dit que. Il nous avait été demandé de faire par le comité national de transition vers IPv6, dont l'un des membres est là, de faire une enquête concernant le déploiement d'IPv6. Et aussi, c'est toujours sous la tutelle du ministère de l'Information et de la Communication. Donc, l'objectif de l'enquête était de voir les besoins en termes d'infrastructure, c'est-à-dire est-ce que les routeurs, les chutes, est-ce que les éléments de l'infrastructure, des infrastructures ici dans les entreprises et dans le secteur public aussi, supportent IPv6. Et aussi, l'enquête va concerner les notions de sécurité concernant IPv6, c'est-à-dire est-ce que le nouveau protocole de sécurité, est-ce que IPsec est utilisé et bien utilisé? Et aussi concernant les standards et la formation, c'est-à-dire si les équipes techniques sont formées en IPv6 et peuvent l'utiliser à bon escient. Voilà, donc les cibles de l'enquête sont les composants du comité de transition vers IPv6. Donc, ce sont les opérateurs, les ministères, les entreprises publiques et privées et les universités. Ce sont les cibles de l'enquête. Moi-même, je fais partie de l'équipe qui a mené cette enquête. Nous sommes allés sur les opérateurs, les ministères, les entreprises publiques et privées et les universités pour voir est-ce qu'ils ont commencé à déployer IPv6 et est-ce qu'ils l'utilisent. Donc, les résultats de l'enquête vont porter sur les routeurs, les applications et les systèmes d'exploitation, les réseaux, la sécurité et la formation. Donc, pour les résultats de l'enquête, nous avons sur 29 structures dont on a visité, nous avons 23 qui ont répondu au questionnaire, soit 79,3% de réponses. Donc, concernant les résultats pour les routeurs, on peut dire que 81,3% des routeurs sont compatibles à IPv6 et 18,8% sont compatibles. Pourquoi ? On a l'ensemble, presque la majorité des routeurs dont on a recueilli sur l'enquête sont des routeurs Cisco et ils sont facilement compatibles à IPv6 puisqu'il faut seulement mettre à jour l'AES. Donc nous avons 81% des routeurs qui sont compatibles, ce qui constitue un élément très important pour un déploiement d'IPv6 puisqu'on sait que les routeurs jouent un rôle très important. Aussi concernant les systèmes d'exploitation et les applications. Pour les systèmes d'exploitation qu'on a recueillis, nous avons des Windows 2003, des Windows 2008, des Windows 7, Vista, XP, Ubuntu. Alors qu'on sait que ces systèmes d'exploitation actuellement supportent IPv6. Sur XP, il faut seulement installer un patch pour qu'ils puissent utiliser IPv6. Et sur Ubuntu, il faut seulement avoir le cœur 2.6. Et aussi concernant les concernant les systèmes de gestion de bases de données utilisés, il y a Oracle, SQL Server 2000 et 2005, qui sont déjà compatibles à IPv6. Donc on peut dire que les OS et les applications sont utilisées ici sur les structures dont on a visité, supportent IPv6 et peuvent commencer à l'utiliser. Et concernant les réseaux, comme on le sait, les services qui sont utilisés dans les réseaux utilisent le DNS. Donc le DNS constitue une passerelle très importante pour passer à IPv6. Les noms de domaine dont on a requis sont tigo.sn, senelec, ARTP, expresso, etc. Et l'ensemble de ces domaines doivent être mis à jour pour qu'ils puissent supporter IPv6. Concernant la sécurité, sur 23 structures dont on est allé, nous avons 6 seulement qui utilisent IPsec, soit 26%, ce qui constitue un taux qui est faible par rapport à l'utilisation d'IPsec, puisqu'on sait qu'IPsec est le protocole qui permet de sécuriser IPv6, puisque c'est natif sur ce protocole. Donc il faut que les équipes techniques puissent être mieux formées sur IPsec et qu'ils l'utilisent de plus, et que IPsec soit de plus en plus vulgarisé dans ces structures-là. Aussi, concernant la formation. Pour la formation, on a 17,4% seulement d'équipes techniques qui sont formées en IPv6. Nous sommes allés sur les différentes structures, nous avons interrogé les équipes techniques et on a vu qu'il y a seulement un faible taux qui utilise IPv6, soit 17,4%. Sur 23 structures dont on est allé, il y a seulement 4 qui utilisent et qui connaissent IPv6. Donc ce sont les différents résultats qu'on a recueillis quand on est allé dans les structures privées et publiques du Sénégal, c'est-à-dire les ministères, les entreprises et les opérateurs aussi. Donc pour faire un petit résumé des résultats qu'on a eus, on peut dire que la majorité des équipements est compatible à IPv6, puisque les routeurs, comme on a dit tout à l'heure, sont des routeurs Cisco. Il faut seulement mettre à jour l'IOS de Cisco, qui est gratuit sur le site de Cisco. Aussi, la formation, c'est là où le bas blesse pour la transition vers IPv6, puisque les équipes techniques ne sont pas bien formées en IPv6. Des fois, dans notre enquête, on a interrogé des gens et ils ne voyaient pas l'importance de passer à IPv6. Et c'est un peu normal quand on utilise le NAT et autres sur IPv4. Mais la formation en IPv6 constitue la majorité des coûts pour la transition vers IPv6. Se résume au cours de la formation. Donc, il faut que les équipes techniques au Sénégal, ici, soient plus formées en IPv6 pour qu'ils puissent utiliser les avantages qu'il y a sur IPv6 par rapport à IPv4. Donc, ce sont les résultats dont on a recueilli sur nos enquêtes. Et aussi, dans le comité, c'est fixé comme objectif aussi de dire à la douane, c'est-à-dire le service qui s'occupe de l'importation des matériels issus au Sénégal, pour établir un texte de loi pour arrêter les importations des matériels qui ne sont pas IPv6 ready. Donc ce sont les objectifs que le comité national s'est proposé et les résultats de l'enquête que nous avons fait au Sénégal. Voilà ma fin de la présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Thank you. Well, I'd like to go through all the presentations
Merci beaucoup. Je voudrais faire ma présentation et prendre des questions à la fin. On va alors avoir cette séance à la fin de cette présentation. On va maintenant écouter Trilog qui va nous dire ce que l'île Maurice a fait dans la perspective de l'IPv6. Je ne sais pas si tu veux faire la présentation. Merci beaucoup. En premier lieu, ICAN, merci toi-même de me donner l'opportunité de partager l'expérience par rapport à l'IPv6. Je suis Trilog d'Abessing. Je viens de l'île Maurice. Je suis le directeur des technologies Ce bureau a été ouvert en 2006. J'ai ici donc l'ordre dans lequel je vais faire ma présentation. D'abord, on parlera de l'utilisation de l'IPv4 à l'île Maurice et des résultats qu'on a obtenus en mars de cette année. En deuxième lieu, les recommandations sur une consultation publique qu'on a fait avec les fournisseurs Internet pour pouvoir être d'accord avec les exigences de l'IPv6. Et nous allons parler de notre expérience pratique et des problèmes que nous nous sommes rencontrés par rapport à l'IPv6 lui-même. Et puis pour conclure, je vais vous dire quels sont les pas à suivre dans l'avenir et les perspectives aussi que nous avons face à nous. Dans la diapo suivante, quant à la consultation publique de mars 2011, nous avons établi un plan stratégique national et le régulateur a accepté qu'une fois qu'on ait fait la consultation publique, on pourrait appliquer ces résultats aux différentes parties prenantes. Pour voir où nous nous trouvons en ce moment à l'île Maurice, on peut dire qu'on a 40 millions d'adresses IPv4 qui ont déjà été assignées par Afrinic. Par rapport à la consommation mensuelle, on peut dire qu'on a 720 000 adresses IPv4 et on a 500 000 adresses IPv4 assignées à l'île Maurice. Nous avons aussi certaines questions spécifiques à poser, mais en premier lieu, on s'est demandé si le régulateur devait avoir un rôle dans la migration d'IPv4 à IPv6. Telle que partie prenante, nous nous sommes rendus compte que la façon de traiter cela portait sur la régulation interne. Le principal problème que nous avons dans notre pays, et je suppose que c'est le même pour d'autres pays, est que les consommateurs ne demandent pas l'IPv6. Il faut directement traiter ce sujet avec les fournisseurs Internet et mettre en place une solution. Pour changer et continuer à travailler sur ce processus de façon plus rationnelle, l'une des initiatives est d'avoir une conscientisation, une prise de conscience initiale sur ce changement de la part du gouvernement. Les parties prenantes doivent prendre conscience au long de cette campagne sur la mise en place de l'IPv6. Sur cette diapo, nous voyons les initiatives de politique des parts régulatoires que nous croyons sont à suivre. Selon ce que les parties prenantes nous ont dit, nous croyons que nous devons établir des mesures qui génèrent des capacités, la mise en place et les politiques qui portent sur l'IPv6. Comme je viens de dire, par rapport au gouvernement, nous lui recommandons de chercher des exemples. Et pour cela, nous avons créé un organisme responsable de l'IPv6 qui nous dit quand est-ce qu'on va faire le changement, le pas de l'un à l'autre. Et nous croyons que vers 2013, à peu près, nous aurons tout déjà mis en place pour que, en fin 2015, toute la mise en place soit complète. Par rapport aux mécanismes à mettre en place, nous savons que ce mécanisme de transition, on l'a déjà. Mais nous n'allons pas recommander que le régulateur fasse ceci en ce moment de transition. Nous devons aussi nous poser des questions par rapport à la nécessité de créer un organisme neutral pour l'assignation d'adresses IP au niveau national. Je demande cela principalement parce que les régulateurs et les systèmes téléphoniques se voient obligés à analyser cette question, c'est-à-dire qu'il faudrait donc agrandir, élargir le droit pour que les assignations des adresses IP peuvent se faire au niveau national. Alors, basé sur le feedback des parties prenantes, nous avons vu que l'entité régulatrice ne doit pas travailler spécifiquement sur ça. Nous croyons que le régulateur a un mandat quant à l'assignation des fournisseurs Internet et du consommateur. Nous voyons ici les questions de régulation qui rapportent sur la transition d'IPv4 vers IPv6 des différents points de vue. Du point de vue de l'opérateur, nous allons donner des mesures appropriées aux adresses IPv6 pour les consommateurs finaux et les utilisateurs finaux. Nous avons aussi des initiatives administratives quant à l'amendement de la licence que l'on octroie aux fournisseurs Internet, parce que selon la licence de ce moment, nous sommes en train de mettre à jour les licences IPv4, ce qui doit être modifié. D'un autre côté, nous allons voir l'importation d'équipes compatibles avec l'IPv6 et avec les autres organismes, nous allons travailler sur la possibilité d'utiliser l'équipe de communication pour réguler cela, et les entités régulatoires sont celles qui vont décider à ce sujet. Nous allons voir ici si les fournisseurs Internet peuvent travailler sur des programmes de mise en place. Malheureusement, on n'a pas vu telles initiatives et ceci se rapporte au plan pilote. Parfois, les fournisseurs Internet offrent les IPv6 et ceci est dû probablement au fait qu'il n'y a pas une motivation commerciale. On devrait donc voir quelle est la transition et il est difficile de s'assurer que tous les fournisseurs Internet aient l'initiative de l'IPv6 en même temps. Afin de pouvoir encourager cette mise en place et cette expérimentation, on devrait travailler sur un service IST et on analyse la possibilité de mettre en place des programme d'expérimentation avec l'IPv6. On va réanalyser donc cette proposition au niveau du groupe de travail national sur l'IPv6. Pour ce qui est du reste des sujets, ce serait très intéressant de considérer les sujets nationaux qui sont, par exemple, que l'île de Maurice est un pays très petit. Et on a 600 000 adresses IPv6. On devrait donc établir une transition propre vers IPv6. En premier lieu, nous devrions établir une stratégie nationale pour que la transition d'IPv4 à IPv6 soit aussi facile que possible. Il faudrait discuter cela et le développer avec le groupe de travail national responsable de l'IPv6. Quant aux services techniques, nous avons déjà commencé à travailler avec nos fournisseurs Internet. Nous avons 11 fournisseurs Internet à l'île Maurice. Et par rapport à l'enquête que nous avons menée, nous avons eu des réponses de 8 des 11 fournisseurs. Et on voit que 4 d'entre eux offrent des services Internet pour des propos généraux et 3 pour des propos commerciaux. On a vu que les fournisseurs Internet utilisent des services Internet et que S'ils ne peuvent pas fournir les IPv6 ou ils ne peuvent pas le mettre en place, on a quand même deux services Internet mobile ou portable, et l'un d'entre eux est compatible avec un IPv6. On a ici un problème par rapport à l'IPv6, parce qu'en ce qui est pour du réseau de télécommunications, la plupart des composants qui fournissent accès ne sont pas compatibles avec IPv6. Par rapport aux résultats de cette enquête technique, nous voyons que le manque de compatibilité avec IPv6 est dû à des problèmes de produits, de routeurs, de pare-feu et de systèmes de responsabilité qui ne sont pas tellement mis à jour, et c'est pour cela qu'ils ne sont pas compatibles avec IPv6. Pour ce qui est de la sécurité, on ne peut pas oublier de mentionner que la plupart des pare-feux et des produits IPv6, etc., que les fournisseurs Internet utilisent ne sont toujours pas compatibles avec IPv6. Quant à notre expérience de dire à notre serveur web de mettre en place l'IPv6, même si ceci rapporte à notre fonction comme organisme national, notre difficulté lors de cette indication a été par rapport au pare-feu que nous avons en ce moment. Et nous nous sommes rendus compte qu'il faut modifier significativement le pare-feu pour qu'il puisse être compatible avec IPv6. On a dû mettre à jour donc le pare-feu, et on a aussi dû le modifier pour qu'il permette l'accès de trafic à l'IPv6. Nous nous sommes rencontrés avec une difficulté pratique, c'est-à-dire que le support des fournisseurs des pare-feux locaux a dû être mis en place. On voit ici notre propre expérience par rapport à la mise en place de l'IPv6. Et je voudrais dire que rien n'est facile. Et en fait, l'IPv6 est une bonne technologie, mais ça a ses coûts. Et donc, ceci implique des pratiques de mise en place sûres et solides. Ce n'est pas question d'avoir un esprit qui est mis en place de IPv4 et sa transition vers l'IPv6. C'est un peu plus compliqué. Il faut faire attention à la sécurité. J'ai déjà expliqué les contenus de cette diapo. Elle mentionne la mise en place d'IPv6. Par rapport à l'IPv4, nous voyons ici que le fait d'involuer l'ISOC et les fournisseurs Internet et les fournisseurs et les utilisateurs finaux par la transition est mentionné ici. Par rapport à cette diapo, et pour conclure et résumer, nous voudrons recommander la nécessité de mettre en place un groupe de travail national pour l'IPv6. Ce sera un comité consultatif et de contrôle pour ce qui est les décisions et les stratégies pour la mise en place de l'IPv6. Il y aura aussi un comité de direction qui contrôlera les activités des différents groupes de travail. Chacun de ces groupes de travail aura sa propre fonction. Nous travaillerons par rapport à la mise en place de l'IPv6 dans le réseau, dans un groupe. Un autre travaillera par rapport à la prise de conscience, un autre sur les spécifications, un autre groupe travaillera sur le support des applications, et finalement un groupe de travail qui travaillera sur la sécurité, et un autre qui donnera un panorama de l'initiative du gouvernement. Voici les initiatives de mon pays. Et pour commencer maintenant le processus de mise en place d'IPv6 dans mon pays, nous aurons un groupe de travail national pour sa mise en place. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci de votre présentation.
Vous nous laissez beaucoup de choses à penser par rapport au monde du fournisseur de services Internet. On passe au dernier pays du panel, l'Afrique du Sud, qui a beaucoup de consommateurs de registres Internet dans la région. Bonjour, je m'appelle Mark Elkins, j'habite en Afrique du Sud. Mark Elkins, je joue de rôles multiples, donc peut-être ma présentation va être confuse. Dernièrement, j'ai dû me concentrer sur la mise en place de l'IPv6 en Afrique du Sud, et voilà pourquoi ma présentation à 6 diapos pour voir les questions principales. Pourquoi se concentrer en Afrique du Sud? Il y a 3 graphiques ici. Tout d'abord, le membership de l'Afrinic par pays. La portion la plus importante en bleu représente l'Afrique du Sud. Le graphique qui est au centre montre les adresses IPv4 par pays également. Encore une fois, l'Afrique du Sud est bleue. Et à droite, vous voyez que l'Afrique du Sud représente à peu près un quart de tout le graphique, du total de l'Afrique. Ceci est relativement important, donc on n'a pas besoin de tellement de blocs d'adresses par rapport aux blocs d'adresses IPv4. Je tiens à vous dire que l'Afrinic, qui a plusieurs ressources IPv6, et ces ressources appartiennent certainement à l'Afrique du Sud. Hein? Voyons voir maintenant combien de cela est utilisé. J'ai essayé d'accéder au réseau d'accès pour voir comment tout cela était alloué, mais je n'ai pas eu de succès à l'heure actuelle. Je crois qu'on a 68 ou 69 allocations et 32 desquelles sont visibles. On peut donc dire que cela est à peu près la moitié des ressources disponibles, ce qui est assez bien. Je vais vous dire ce qui est visible d'après mon point de vue. Il y a quelque temps, il y a eu un exercice de numérotation d'IPv4 et IPv6 qui a été mené à Johannesburg. Et là, on a créé un site web pour voir ce qui se passait. On a eu environ 56 dispositifs connectés, ce qui veut dire 32 membres, y compris le DNS de la communauté. Et de ces 32 personnes, 8 avaient l'IPv6 et 6 seulement l'utilisaient. J'ai préparé cette présentation il y a une semaine. Maintenant, c'est 9 les personnes qui ont l'IPv6. Donc, cela augmente. Tous les types de services, les DNS des communautés ont IPv6. Et tous les fournisseurs de ces services ont commencé à voir de quoi il s'agit. Ceci est dû à ce que l'un des plus grands fournisseurs Internet de l'Afrique du Sud fournit toujours des services de transit avec de la connectivité à IPv4. Voici le problème qui se présente en Afrique du Sud. Voyons ce qui se passe aussi en Afrique du Sud. L'autre rôle que je joue, c'est travailler dans le registre .co.za en Afrique du Sud. Je travaille dans ce registre-là et on a vu que nous ne devons pas nous opposer à la transition IPv6 dans l'industrie locale. En 2006-2007, en fait, j'ai pu obtenir mon propre blog de mon propre fournisseur Internet et j'ai pu donc configurer une connexion IPv6 vers le monde extérieur pour les gens de l'Afrique du Sud. Puis nous avons vu l'enregistrement IPv6 du GLU IPv6 au DNS. Nous avons eu des résolveurs DNS qui travaillaient à l'IPv6 et à la migration à l'IPv6. Si par hasard, il y avait quelqu'un enregistrant un nom de domaine utilisant le GLU IPv6, nous avions aussi le transport IPv6 pour faire des vérifications et pour les assurer. Pour nous assurer que tout le monde ait la configuration adéquate avant d'utiliser des registres GLU ou des registres de collage dans ce site. Ça, on l'a fini il y a quelque temps déjà. Nous avons également changé et nous avons formé l'association des fournisseurs Internet qui encourageait les membres à adopter l'IPv6 depuis quelques années. Nous avons des questions telles que vous êtes tout à fait compatible avec l'IPv6, vous avez prévu de migrer à l'IPv6, c'est-à-dire ce que nous voulons savoir, c'est si au moins vous avez une idée sur l'IPv6, de quoi il s'agit. Nous avons adopté une approche de prix et de punition. Avec certains, ça marchait, avec d'autres, pas tellement. C'est une bataille permanente, réussir à ce que les gens progressent et qu'ils adoptent ce changement. Maintenant, je vais changer encore une fois le rôle parce que je veux vous raconter un peu ce que mon gouvernement est en train de faire. Le bureau des communications de mon gouvernement a formé un groupe de travail IPv6. Cela, il y a un mois environ, il y a 3 semaines, il y a eu une réunion et jeudi dernier également, il y a eu une autre réunion. Comme ceci nous a pris beaucoup de temps, nous espérons bien pouvoir obtenir des idées des gens qui ont démarré ce processus auparavant. Comme mon collègue du gouvernement de l'île Maurice, le gouvernement fait un grand travail pour ce qui est de la migration IPv6. Voilà tout pour ma présentation. Et dès que toutes les présentations seront finies, je vais répondre à vos questions avec plaisir. Merci beaucoup. Eh bien, notre dernier orateur vient du monde des ISP. Il va nous raconter son expérience IPv6 et je ne veux pas gâcher sa présentation, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'un des ISP leaders en IPv6 dans la région.
En anglais. J'ai en charge le transport au niveau de Sonatel, Orange, et puis pilote également le projet IPv6. Donc nous allons partager avec vous l'expérience donc, d'un ASP qui est Sonatel sur IPv6. Donc pour l'agenda, donc pourquoi IPv6, la stratégie réseau, le contexte au niveau de Sonatel, IPv6 en termes d'organisation, c'est extrêmement important. La partie également communication et les leçons que nous avons apprises en tout cas dans ce challenge-là. IPv6, en fait, comme vous le savez, aujourd'hui, en tout cas pour nous, ASP, on a été challengé d'ailleurs tout à l'heure par le régulateur de Mauritius. Il faut que les infrastructures que nous exploitons soient prêtes pour pouvoir supporter IPv6. IPv6, en fait, est en réalité la seule solution aujourd'hui pérenne pour faire face à la pénurie d'adresses IPv4 que nous vivons. Autre chose également importante, il faut que le service continue. Il y aura toujours des îlots IPv4, c'est-à-dire des clients, des services qui tourneront sous IPv4. Ces services-là également, il faut que nous puissions assurer la continuité de ce business-là. Voilà, donc ce qu'il faut également noter, c'est que IPv6, c'est véritablement une pierre angulaire aujourd'hui. Bon, tout le monde le sait, hein, je pense que l'événement montre un peu l'importance de l'Internet dans le développement économique. Et pour assurer une croissance et une continuité du business, n'est-ce pas, IPv6 aujourd'hui est une pierre angulaire. Cela d'autant plus important, notamment sur la partie ce qu'on appelle le mobile data. Aujourd'hui, en Afrique quand même, c'est un des drivers importants. Tout le monde a au moins son téléphone. Et demain, le coût des smartphones vont baisser. Le développement de l'Internet passera par ça. Donc, plusieurs millions d'internautes à qui il faut offrir, n'est-ce pas, un service IPv6. Et là, effectivement, c'est un vrai challenge également pour les opérateurs télécoms, les ASP. Il faut que IPv6 soit là. Également important, tout ce qui est service machine-to-machine. Vous savez qu'aujourd'hui, je donne rapidement un exemple, hein, pour collecter les compteurs, pour relever les compteurs, le niveau de consommation des compteurs électriques ou de l'eau, il y a quelqu'un qui se déplace, etc., avec le machine-to-machine, IPv6, la possibilité de l'Internet, d'adresser des adresses IP à tout ce qui est machine, permettra tout simplement de centraliser tout cela, et cela ne sera en réalité possible grâce à l'IPv6. IPv6, ce n'est pas également confiné en domaine, comme on dit en anglais, one size fits all. Les entreprises en ont besoin, forcément, pour la continuité de leur business. Le mobile, comme je disais tantôt, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on parle de always on connection. Et rien de plus intéressant de pouvoir démarrer un stream vidéo via Internet sous un environnement Wi-Fi à la maison, de devoir prendre sa voiture, c'est madame qui conduit, vous continuez quand même à regarder votre stream vidéo, ce qu'on appelle du handover, c'est-à-dire vous sortez du Wi-Fi pour aller peut-être dans un environnement 2G, 3G ou après un autre environnement. Le fait de maintenir cette connexion active n'est possible en réalité que grâce à IPv6. IPv4 aujourd'hui présente des limites extrêmement solides par rapport à ça. Sur la partie mobile également, très rapidement, il y a des services à valeur ajoutée très intéressants qui sont dans le pipe, qu'on appelle le quota management, du fair usage policy, etc., qui ne peuvent être aujourd'hui garantis qu'avec IPv6, parce que tout simplement chez nous, pas mal d'opérateurs, nous faisons ce qu'on appelle du network address translation avec des adresses IP privées, et certains services, effectivement, nous avons du mal à pouvoir les mettre en route. Sans oublier aussi tous les services multiplay, triple play, etc., et tout ce qui est wholesale de contenu, etc. La stratégie, donc, au niveau, en tout cas, de Sonatel et du groupe Orange, d'ailleurs, en particulier, nous nous sommes focusés sur un fait qui est réel aujourd'hui pour tous les ASP. Tout ce qui est service, voix, données, vidéo, va converger vers un réseau unique qu'on appelle IP. C'est vraiment le concept de l'IP everywhere. Donc l'idée ici, c'est que ce réseau-là, qui est le réseau IP-MPLS, il doit être IPv6 ready, c'est-à-dire il doit être prêt à supporter IPv6. C'est pour cela, si vous regardez sur ce slide-là en vert, vous avez le cœur de réseau, hein, où généralement il n'y a rien à faire, donc je ne vais pas rentrer trop dans la technique, hein, ils ne font que commuter des labels, mais tout autour on a ce qu'on appelle des PE, des Provider Edge, ces équipements-là qui vont supporter les liaisons des clients, c'est-à-dire qui vont nous permettre de délivrer les services, seront en dual stack, c'est-à-dire ils vont supporter IPv4 et IPv6, et aujourd'hui c'est une réalité pratiquement chez nous, hein, en tout cas sur un certain nombre de points de présence. Autre chose également importante, c'est chez le client. Chez le client, il faut que l'équipement qu'il a, le routeur, ce qu'on appelle le customer equipment, puisse également supporter le dual stack, qu'il soit en environnement IPv6 ou IPv4. Il faut que nous soyons capables, n'est-ce pas, par des mécanismes donc de DHCP, etc. À la maison, vous savez également que le nombre de terminaux qui vont accéder à Internet vont exploser dans les années à venir. Aujourd'hui, nous avons peut-être 2-3 terminaux, mais demain, ce sera la télévision qui va accéder à Internet, le réfrigérateur. Ce sera également tout ce qui est console de jeu, Xbox, etc. Et tous ces services-là doivent pouvoir supporter IPv6. Pourquoi ? La raison, elle est simple également, parce qu'on va s'acheminer vers une convergence des réseaux avec un concept technique qu'on appelle l'IMS, l'IP Multimedia Subsystem, avec un protocole assez particulier qu'on appelle le SIP. Et il y a certaines applications, notamment comme la voix sur IP, il est clair que voilà, il faut être sous V6, avec V4, on a quelques soucis. Cela veut dire également que IPv6, ce n'est pas uniquement pour régler un problème d'adressage, mais également pour assurer de nouveaux services. Le côté contexte Sonatel, donc les trois objectifs majeurs, hein, c'est d'anticiper donc l'évolution globale d'Internet en tant qu'ASP. Il faut que nos clients, il faut que nos utilisateurs puissent accéder à des contenus IPv6, quelle que soit leur localisation dans le monde. Aujourd'hui, vous savez qu'on parle de pénurie, donc bientôt l'Asie ne va plus peut-être avoir d'adresse IPv4. Vous allez vous retrouver avec un partenaire en business qui n'a qu'un site IPv6 ready. Ben, ce site-là, il faudra pouvoir y accéder quand vous êtes au Sénégal. Voilà, donc il faudrait effectivement que nous puissions en tout cas offrir cette possibilité-là à nos utilisateurs. consolider également une sorte de leadership technique, c'est-à-dire montrer à nos utilisateurs un savoir-faire, en tout cas, les tranquilliser, qu'en tout cas, côté réseau, nous sommes prêts pour les accompagner, et puis également être un des références, en tout cas majeures, ce qu'Orange est en train de faire, en poussant le déploiement d'IPv6 sur toutes ses filiales en Afrique, c'est de pouvoir évangéliser tout le monde. Voilà, comme je disais effectivement tantôt, extrêmement important aussi de monitorer l'utilisation des adresses IPv4. Il ne faut pas seulement dire que, bon, Afrinic m'a alloué des adresses, je les utilise en fermant les yeux. Donc, c'est des choses que nous monitorons. Où est-ce que nous en sommes en termes de taux d'utilisation? Où est-ce que ça monte sur quel segment business, etc.? Et quelles sont les actions à faire? Et ça permet très rapidement d'ajuster, n'est-ce pas, le déploiement du IPv6. Autre chose également importante, c'est de mener un audit. Bon, je pense que le gouvernement a commencé. Nous sommes heureux d'ailleurs d'être membres de ce comité. Mais un audit également interne au niveau des réseaux des ASP. Cet audit-là ne doit pas concerner uniquement les routeurs, etc., mais aussi aller jusqu'au serveur du système des systèmes d'information. Je pense que le régulateur de Mauritius l'a bien dit, hein. Tout ce qui est serveur de billing, tout ce qui est CRM, Customer Relationship Management, etc., et tous ces serveurs-là, côté système d'information également, doivent être regardés. Et pour déployer un projet IPv6, ce que nous pouvons partager en tout cas comme expérience, c'est trois choses importantes, trois groupes de travail à mettre en place, la partie architecture, la partie déploiement et la partie, bien sûr, operation and maintenance. Ne pas oublier, bien évidemment, la partie communication et marketing et puis tout ce qui est aspect IT. Autre chose également fondamentale, c'est la formation des équipes. Ça, je pense que nous l'avons commencé en interne, et former également l'ensemble des équipes des filiales Orange de la sous-région, mais aussi avoir en tête quelque chose en termes de gouvernance, c'est que c'est des projets qui doivent être gouvernés au niveau top management, parce que, vu leur caractère stratégique, que les ressources allouées, du moins, puissent être disponibles au bon moment. Comme je le disais, donc, consolider tout ce qui est forecast en termes d'utilisation d'adresses IPv4, en termes de monitoring, en termes de voir un peu, en termes de best practice, c'est des ressources rares qu'il ne faut pas gaspiller, il faut optimiser l'utilisation dans le réseau, aussi bien au niveau des routeurs, etc., qu'au niveau des services alloués à nos clients, et les estimer très rapidement, voir où est-ce que nous en sommes, et ça permet effectivement de revoir la roadmap et d'accélérer les choses. Voilà. Donc l'audit, bon, on en a parlé également, bien évidemment, hein. Ça ne s'arrête pas uniquement aux routeurs, OS, hardware, etc. Il faut regarder toute la chaîne, DNS, DHCP, les plateformes d'authentification, etc. Voilà, faire aussi des documents sur la topologie réseau, les faire vivre, n'est-ce pas, avec l'introduction, bien sûr, du IPv6. Rapidement, donc, côté Sonatel, nous avons, bien sûr, déployé des phases pilotes depuis 2009-2011. Nous avons aujourd'hui réussi à mettre en place ce qu'on appelle des réseaux privés virtuels sous V6, ce qu'on appelle les VPN V6, qui est aujourd'hui une réalité, c'est-à-dire nos entreprises qui souhaitent avoir une connectivité IPv6 pour interconnecter leurs différents sites, ou bien IPv6, IPv4. Aujourd'hui, c'est une réalité que nous sommes capables, bien évidemment, d'offrir. Autre chose également que nous avons eu à faire, c'est tout ce qui est test ADSL sous V6, non sans quelques difficultés, parce que, comme le disait le régulateur tout à l'heure, les équipementiers ne sont pas toujours compliants. On a eu quelques soucis sur les DSLAM, mais bon, par le miracle du bridging, etc., le mettre complètement transparent, même s'il n'est pas encore IPv6 compliant, nous a permis quand même de faire des tests ADSL également sous V6. Aujourd'hui aussi, l'accès à Internet sous V6 est une réalité. Je pense que chacun d'entre vous l'a vécu lors de ce EICAN. Lorsque vous avez ici un laptop qui est IPv6, qui supporte IPv6, par défaut, je pense, nos amis vous allouent très rapidement une adresse IPv6, et durant tout le salon, durant tout le sommet d'ICANN, on a permis quand même d'avoir une connectivité IPv6, non pas avec des tunnels, mais une connectivité vraiment native avec nos upstream providers. En 2011, nous allons continuer ce challenge pour aller toucher les autres services, notamment les services du mobile, notamment la partie IPTV, revoir les documents d'ingénierie, etc. En tout cas, continuer, et tout cela pour pouvoir être prêt à avoir, des choses qui sont ready. Bon, la partie communication, comme je disais, est extrêmement importante. Donc, on a organisé des sessions de formation en 2009. Nous avons également participé à un salon où on a invité donc l'ensemble des responsables IT des entreprises pour les évangéliser sur la nécessité de se préparer à aller vers IPv6. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils peuvent très rapidement, sur le plan économique, avoir des gains assez intéressants, c'est d'anticiper l'acquisition des équipements. Je dois acheter de nouveaux routeurs, je m'assure que ce que j'achète, c'est un AES, un hardware qui supporte IPv6. Et là, demain, si je dois faire le saut, le truc, il est là, etc. Et donc, je pense que ça a été très intéressant. Et aujourd'hui, bon, je ne vais pas citer les compagnies. On a deux compagnies multinationales qui nous approchent parce que tout simplement, leur maison mère leur demande de passer sous IPv6. Voilà, donc, c'est des choses qui sont réelles. Voilà. Alors, ce que nous avons eu, en tout cas, dans cette expérience, c'est que les gros challenges, c'est la transition, c'est-à-dire le fait de gérer ces deux mondes IPv4, IPv6, parce que IPv4, quand même, il faut qu'il continue de tourner. C'est un must. La partie IT aussi, c'est assez complexe. J'avoue, c'est un truc sur lequel il faut qu'on soit très regardant. Mais également, tout ce qui est équipement client, notamment les customer premise équipements, les set-top box pour l'IPTV, ils ne sont pas toujours ready, IPv6, etc. Certains traînent les pieds. Bon, c'est des choses également que nous suivons au niveau du groupe Orange, avec des working groups spécifiques dessus. Pour terminer rapidement, un des clés de succès aussi, c'est d'avoir les ressources qu'il faut, les ressources humaines bien formées, etc., pour pouvoir accompagner ce projet-là et prendre IPv6 comme une opportunité et non comme une contrainte. Donc, je vous remercie.
On remercie tous les présentateurs qui nous ont vraiment donné une perspective générale de la situation IPv6 en Afrique depuis le monde des CCTLD, des fournisseurs Internet, des régulateurs. Et donc, je voudrais passer maintenant à la séance des questions et des réponses. J'en ai quelques-unes ici qui ont été posées à la distance et j'en ai ici quelques-unes dans la salle. Je vois des mains levées. Levez vos mains si vous en avez.
Decime cuando querés cambiar.
Il faut poser les questions à travers le microphone. On vous prie, sinon les cabines ne peuvent pas entendre les questions. Il y a un microphone dans la salle pour que vous allez les poser au microphone. On a une question de Trilok ici qui est en ligne. Et Trilok a dit qu'on a besoin de faire attention au sujet de sécurité. Même si on n'est pas, si on n'est jamais 100% en ligne. Mais IPv6, on dit ici, doit fournir davantage de sécurité que l'IPv4. Alors, je voudrais vous demander, Trilok, si vous pouvez nous donner plus de détails sur la sécurité par rapport à IPv6. Merci. Alors, je réponds. Je voudrais prendre quelques autres questions d'abord et répondre à celles-ci après. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Bon, merci beaucoup. Je viens de l'Ouganda et je travaille avec le ministère du TIC.
J'ai été très surpris par les statistiques des pays. Je voudrais savoir, du point de vue des gouvernements, je voudrais faire un commentaire parce que le gouvernement de l'Ouganda, il y a moins d'un an, a établi un groupe de travail et on a été inclus dans le processus de transition, de stratégie pour la transition vers IPv6. Ceci a été accepté par notre ministère de TIC le mois dernier, mais l'une des leçons qu'on a tirées tant que partie prenante est que tout ceci se rapporte à la prise de conscience et comment on génère des capacités pour ce que sont nos ressources humaines locales. D'un côté, il faut organiser des ateliers locaux avec tous les officiers de TIC du gouvernement central, gouvernement national et les autorités locales en même temps. Certains des fonctionnaires de ce ministère ne connaissaient pas l'IPv6. Ils ne savaient même pas quand est-ce qu'ils pouvaient lancer l'IPv6. Donc, c'était un grand défi qui rapporte à la prise de conscience et la génération de capacités. Alors, ma question est d'établir entre les autorités, un groupe de travail sur IPv6, de façon conjointe avec les universités publiques, avec toutes nos correspondances, tous nos documents, et d'ajouter une note en bas de page et de leur dire qu'ils doivent discuter l'IPv6. Parce que s'ils abandonnent le ministère, ils peuvent voir et avoir un exemple de ce que nous sommes en train de faire. Alors, je crois qu'on devrait faire l'effort de générer plus de conscience. Même si on peut avoir un groupe de gens techniques, le gouvernement doit générer cette prise de conscience et former les gens et travailler avec les parties prenantes pour générer cette prise de conscience. Merci de ce commentaire. Bonjour, je suis Emma Bodem, le chef d'ingénierie de l'IT des réseaux du Sénégal, de Sonatel à Sénégal. Je vous remercie de vos présentations. J'ai une question pour Hicham. Et on a vu lors d'un des ateliers d'IPv6 hier, ou plutôt lors d'un des ateliers sur le DNSSEC, que l'IPv6 va impacter sur Internet au fur et à mesure que l'on expose les serveurs DNS à l'IPv6. Alors, comment est-ce qu'on va supporter les parties prenantes lors de la migration d'IPv4 vers IPv6? Ma deuxième question va être posée en français. Cuando ustedes hicieron esta encuesta, quisiera saber cuál era la declinación de algunas de las partes que estuvieron involucradas en esto. El 80% dijo usted de los routers serán compatibles y que solo el 17% de las capacitaciones y de la migración se habían hecho. Entonces, ¿cuál es el motivo de la distribución de gráficos entre los consumidores, los usuarios, la administración, los proveedores de Internet y la universidad, por ejemplo? Entonces, esto les hubiera permitido tener una visibilidad sobre las partes menos compatibles. Sería interesante entonces también saber cuáles son los planos de acción que solicitaban este tipo de medidas y para que la compatibilidad IPv6 fuera posible y que se hiciera la transición. Cuando hablaba el regulador, dijo que a través del ejemplo debía mostrarse que para el 2013 se iba a poder implementar completamente el IPv6. Entonces, ¿cuál es el punto de vista del Ministerio con respecto a esto? Muchas gracias. Hola, soy Roger. Vengo de la Agencia Universitaria de la Francofonía y voy a relacionar mi pregunta con lo que dijo el señor que venía de Sonatel. Soy uno de los usuarios finales y en este momento estoy usando IPv6 con 4 túneles. Usted dijo que el IPv6 se podía usar directamente provisto por usted. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Tengo que mandarles un mail o hay algún contacto, un número de teléfono que pueda llamar? ¿Qué tengo que hacer para usarlo? Gracias. Hola, yo soy Raman Yahu, vengo de Benín y también soy miembro del ICANN y tengo algunas preocupaciones con respecto al IPv6, ¿no? Porque nosotros somos conscientes de que el IPv4 está un poco obsoleto y que sería importante lograr la transición hacia IPv6. Cada país, por supuesto, hace sus propios esfuerzos. No vamos a hablar en términos ideales, pero quisiera saber si existen condiciones grupales entre los países para que conjuntamente hagamos la transición progresiva hacia el IPv6. Porque me parecería importante ver que un país pasa a IPv6 y no estaría bueno ver que otro se mantuvo en el IPv4. Entonces, quisiera saber cómo funciona la cooperación a este nivel. Me parece importante pensar ahora en que este traspaso sea progresivo y conjunto. Muchas gracias. Alors, oui, par rapport à la dernière question, alors on va prendre une autre question avant des commentaires. Quería
IPv6 actuellement, on n'a pas le choix, on est obligé de migrer, n'est-ce pas? Donc, Or, vous avez des utilisateurs finaux qui en ont besoin déjà, parce qu'il y a un problème de sécurité qui est là. Vous ne l'avez pas évoqué, mais c'est important, je crois. Parce qu'avec le problème des notes, donc on sait que l'homme du milieu est souvent derrière les notes pour faire ce qu'il a à faire. Alors que là, vous avez des utilisateurs finaux donc, qui sont là pour voilà, qui doivent se sentir en sécurité. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, si vous pouvez déployer IPv6, ce serait mieux parce que il y a des équipements qui sont là, avec qui ont les deux piles IPv4 et IPv6. Donc, ce serait mieux donc de déployer IPv6 comme ça. Donc, les équipements qui seront en possibilité de l'utiliser vont l'utiliser, c'est mieux donc, n'est-ce pas? Merci beaucoup.
Okay, thank you. So I'd like to ask.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si Trilogue voudrait bien répondre à la première question. On va après parler donc des sujets de sécurité. Oui, ce que je voulais dire par rapport à la sécurité est que sans doute l'IPv6 est bien plus sûr que l'IPv4, mais afin de voir ces sujets de la sécurité et pour profiter des bénéfices de l'IPv6, il faut s'assurer d'avoir des pratiques de mise en place très solides pour pouvoir se rassurer par rapport à la sécurité de l'IPv6. Par exemple, avec les pare-feux actuels, notre logique quant à la politique de sécurité appliquée pour l'IPv4 n'est pas une construction mécanique de la sécurité, ou alors ce n'est pas en tout cas une transition mécanique de sécurité d'IPv4 vers IPv6. Nous devrions être très conscients sur le besoin de bien mettre en place les IPv6 pour garantir la sécurité de l'IPv6. Merci. Marc?
Marc Elkins.
Je crois que c'est comme passer un utilisateur de Windows à Linux. L'IPv4 a déjà longtemps sur le marché. Tout le monde sait donc comment ça fonctionne. On connaît les questions relatives à la sécurité. Et l'IPv6 n'est pas différent. Il y a là des questions de sécurité à en tenir compte, donc. Les gens passent de Windows à Linux et ne regardent pas en arrière. Les gens vont passer de l'IPv4 à l'IPv6 et ils ne regarderont pas derrière non plus.
J'ai posé pour notre cher étudiant sur les aspects sécurité. Bon, je pense que les aspects sécurité, hein, donc aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui est bien pris en compte à notre niveau. Hein, donc, on en est. Mécanismes qu'il faut, les filtres, les firewalls aux bons endroits, etc. Mais vous savez que l'aspect sécurité se gère également par l'utilisateur, un rôle également à jouer hein, dessus qui est important, c'est-à-dire c'est de protéger son environnement, son réseau local, etc., pour pouvoir bien veiller. Nous, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à notre niveau, nous veillons, en tout cas, à regarder tout ce qui est spam, tout ce qui est trafic malicieux, etc., et essayer de voir effectivement ces choses-là. On est en train de les confiner, de travailler avec des partenaires pour essayer d'avancer dessus. Pour ce qui est du déploiement d'IPv6, bon, ça, je pense que je vais y revenir.
I'd like to take the points that were...
J'aimerais répondre à ce qui m'a été demandé spécifiquement. En premier lieu, on a parlé de progresser ensemble, non seulement pays par pays, mais au niveau région, tel que je l'ai mentionné dans ma présentation. Ceci est déjà mis en place. On a démarré avec un groupe de travail régional africain pour IPv6 qui réunira les initiatives nationales de chacun des pays. On a des fournisseurs de services Internet, des universités qui se sont engagés également à ce travail. Tout le monde intéressé à l'IPv6 dans la région forme cette plateforme de travail conjointe et d'échange d'expériences. Il y a des pays qui ne font pas encore partie du projet. On continue à construire cette plateforme de travail qui sera lancée dans 2 semaines lors de notre réunion au Cameroun. Il y a aussi eu une question sur le DNSSEC et ce que la FRINIC fait là-dessus. On a beaucoup d'initiatives. On est très intéressés à ce sujet. Et pour reprendre le thème de la réunion, on peut dire qu'on a eu des séances de formation d'une journée de travail pour mettre en place ou voir la manière de mettre en place cette problématique. J'aimerais bien que vous soyez attentifs à tout cela parce que cela va être transmis. Vous pourrez participer à distance. Il y a d'autres questions à répondre. Sinon, je vais répondre à la question de John. Je suis le PDG d'une société. Je veux vous parler sur les questions relatives à la sécurité IPv6, telles que l'on a déjà mentionné l'IPv6. C'est-à-dire, il faut voir l'architecture de sécurité de manière constante. Ceci, on ne se transforme pas comme ça d'IPv4 à IPv6. Il faut faire un effort. Je tiens à rappeler aux personnes ici présentes et aux participants à distance qu'il faut considérer la sécurité d'IPv6. Et ce n'est pas optionnel. C'est obligatoire. Vous devez la faire. Et quand vous avez déjà l'IPv6, les mécanismes de transition entre l'IPv4 et l'IPv6 sont déjà activés dans votre réseau à ce jour. Donc, même si vous n'activez pas l'IPv6, il est probable que vous ayez besoin de faire l'exercice de sécurité IPv6 pour évaluer de quoi s'agissent ces protocoles, comment ils sont configurés, si vous les filtrez, si vous les bloquez, parce que peut-être il y a des utilisateurs des paquets de données IPv6 sans même le savoir. Il peut y avoir quelqu'un qui dit, c'est bien, moi, je vais mettre en place l'IPv6 et je suis concerné par la sécurité. Ce n'est pas une option valide. La sécurité de l'IPv6 est quelque chose qu'il faut étudier, et même si vous n'activez pas l'IPv6. Merci. Cette question appartient à Andy Ronke, qui participent à distance. On demande à Trilup si vous avez dit que les fournisseurs de services Internet ont participé de l'enquête effectuée à Maurice. Quand il y a moins de fournisseurs de services Internet qui coopèrent, par exemple au Nigeria, quelles sont les options pour les entités de régulation? Eh bien, avant de répondre à la question, j'ai des réponses en attente. Donc, je cède la parole à l'un des membres du panel. Excusez-moi, c'est la coordinatrice de la réunion qui parle. Nous devons finir cette session à 10h30. Il faut préparer la salle pour la prochaine séance. Tenez compte de cela. Oui, nous tiendrons compte de cela.
Sur les pourcentages sur les opérateurs, l'administration et les universités, ceux qui utilisent plus ou moins IPv6, on peut dire que ici au Sénégal, c'est l'opérateur qui est déjà prêt et qui utilise beaucoup plus IPv6 et qui en fait même la promotion, c'est la Sonatel, pour ne pas faire de la publicité. C'est eux qui sont les plus informés sur IPv6, puisqu'ils ont déjà mis un tunnel. Puisqu'ils proposent déjà une connexion en full IPv6 à l'Université de Dakar pour qu'ils puissent l'utiliser. Aussi, les deux grandes structures qui utilisent IPv6 ici au Sénégal, c'est l'Université Cheikh Anta Diop, qui ont déjà commencé à déployer IPv6. Et concernant les opérateurs, c'est la Sonatel. Et aussi, au niveau de l'administration, nous avons l'ADIE qui a participé à la première session de formation, au premier forum d'IPv6. Dans le processus qui a été débuté depuis 2008, c'est l'ADIE était dans.